C'est l'histoire d'une livraison en apparence des plus banales. 4 jours après avoir passé commande sur Internet, notre achat est arrivé dans un relais colis.
Bonjour, je viens pour le colis.
Oui, alors c'est juste ici qui est en bas.
Merci.
Bonne journée.
Au revoir.
Notre paquet vient des États-Unis. Et ce que nous espérons trouver à l'intérieur est une marchandise très dangereuse. C'est dans un lieu à l'abri des regards que nous allons l'ouvrir.
Donc là, on voit que ça a l'air d'être un stéréo player, d'après l'étiquette, à 70$.
Nous n'avons pas commandé cette Chenify, mais un objet dont la détention sans permis est punie de 3 ans de prison en France.
Donc ça ressemble effectivement à une Chenify. Ça semble un peu lourde quand même.
Nous allons vérifier si ce lecteur CD n'a pas servi à dissimuler ce que nous avons acheté. À l'intérieur, au milieu des composants d'une chaîne stéréo classique, du papier à bulles, qui a priori n'a rien à faire ici. Voilà notre commande, cachée et emballée. Un revolver 38 spécial. C'est bien cette arme que nous avions achetée sur Internet pour 1 000 €. Elle a été expédiée par la poste en moins de 4 jours, comme n'importe quel autre colis. Nous avons fait expertiser ce 9 mm par un armurier. Il est authentique, capable de tuer. Nous avons remis ce revolver à un spécialiste qui l'a détruit. Cette arme mortelle, nous l'avons achetée sur un site internet qui n'est pas référencé par les moteurs de recherche que vous connaissez tous, comme Google ou Yahoo. Le vendeur se cache dans les méandres d'un internet clandestin, le Darknet. Une zone de non-droit qui, jusqu'à aujourd'hui, échappe à tout contrôle, qu'il soit policier ou douanier. Une zone de non-droit qui garantit à tous ses utilisateurs un anonymat total. Pendant 6 mois, pour tenter d'en percer les mystères, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui se cachent dans ce monde secret. Des clients, mais aussi des trafiquants comme Joe, un dealer d'un nouveau genre.
Tout vient du Darknet en fait. C'est vraiment pas cher et c'est la qualité quoi.
Nous avons aussi voulu savoir comment les policiers luttent contre ces trafics de drogue, d'armes ou d'images pédopornographiques.
Est-ce que vous avez décidé d'installer Tor pour aller uniquement sur les sites pédopornographiques ?
Oui. Quand on va sur le Darknet, on n'a pas peur de ce qu'on fait.
Mais le Darknet n'est pas qu'un supermarché du crime. Ce réseau est aussi une arme au service de la liberté d'expression. Notre enquête nous a menés jusqu'en Afghanistan, où des journalistes utilisent cet internet parallèle pour se protéger.
If you use Tor, it's very useful if you want to bypass censorship.
Plongez dans le côté obscur du web, où le pire côtoie le meilleur. Au commencement de nos recherches, nous avons voulu répondre à une question simple. Le Darknet garantit-il l'anonymat à tous ses utilisateurs ? Nous procédons à un test simple, l'envoi d'un email. De notre ordinateur, nous utilisons une messagerie traditionnelle. Notre courrier électronique porte alors la signature de notre ordinateur, cette suite de 10 chiffres que l'on appelle l'adresse IP. Grâce à elle, la connexion Internet est identifiée et localisée très précisément, ici à Paris. Nous renvoyons ensuite le même email via le Darknet, depuis le même ordinateur et du même endroit. Cette fois, notre signature numérique a changé. Elle indique que nous envoyons ce message via un ordinateur basé à Bucarest, en Roumanie. Sur le Darknet, nous agissons ainsi sous couvert d'une fausse identité numérique. Comment ce tour de passe-passe est-il possible ? Seul un spécialiste du Darknet peut nous répondre. Cyril explore l'Internet clandestin dans ses moindres recoins depuis des années. Il est l'un des experts informatiques les plus pointus de France. Cyril gère la sécurité électronique de plusieurs sociétés du CAC 40.
extrêmement simple. Il suffit de télécharger un petit programme, de l'installer et ensuite de se connecter.
Ce programme qui permet de se connecter au Darknet, c'est Tor, The Onion Router.
Tor, c'est un outil ainsi qu'une infrastructure qui permet de communiquer de façon anonyme et d'accéder à du contenu sans qu'on sache qui l'a mis en ligne.
Comment ce programme fonctionne-t-il ? Sur l'Internet classique, votre ordinateur est connecté à un serveur unique. Un serveur clairement identifié, qui est contrôlé par votre fournisseur d'accès, en général un opérateur téléphonique. Vous agissez à découvert, toutes vos activités sont traçables. Sur le Darknet, le programme Tor fait transiter la connexion d'un serveur à un autre dans le monde entier, de manière aléatoire. Votre ordinateur est camouflé dans le réseau Tor, impossible désormais pour l'opérateur téléphonique ou la police de localiser votre connexion et donc de vous identifier.
Ce mélange-là, ça fait que même des autorités extrêmement puissantes qui seraient capables d'enregistrer tout le trafic ne vont pas pouvoir savoir où je vais et d'où je viens.
Les trafiquants et les escrocs se sont emparés de ce monde sans identité pour vendre des marchandises interdites. En tête de gondole de ce supermarché du crime, les produits stupéfiants. Plusieurs centaines de milliers d'achats chaque semaine sur le Darknet. Comment fonctionne ce trafic de drogue 2.0 ? Comment les dealers arrivent-ils à livrer la marchandise à leurs clients ? Via une messagerie cryptée sur le Darknet, nous sommes entrés en contact avec des dizaines de vendeurs de drogue en nous présentant comme journalistes. La plupart ont refusé de nous rencontrer ou même de répondre à nos questions. Mais au bout de 4 mois, nous avons réussi à gagner la confiance de l'un des plus gros dealers français du Darknet. Direction le sud de la France, pour rencontrer ce trafiquant d'une nouvelle espèce, les dealers du net. Nous l'appellerons Joe, la trentaine, célibataire et sans enfant. Dans sa cuisine, pas d'herbe de Provence, mais des milliers d'euros de drogue en tout genre.
Ça, c'est des... Voilà, c'est des Superman. Ça, ça se vend 8 euros. Pièce. 5 grammes de... Ouais, je mets toujours un petit peu plus pour fidéliser la clientèle. Hein. Tout ce que j'utilise pour faire mes commandes et tout ce que j'expédie, tout vient du Darknet, en fait. Et c'est vraiment pas cher et c'est la qualité, quoi. Ça va me durer 3 ou 4 jours, pas plus.
Vous allez vendre tout ça en 3-4 jours ?
Ouais.
Joe écoule sa marchandise sur l'un des sites les plus importants du Darknet. Et c'est aussi sur l'Internet clandestin qu'il se fournit en drogue, avant de la revendre dans une quinzaine de pays.
On est ouvert au marché mondial, quoi. La clientèle, elle est énorme. Et il y a tellement de demandes, toutes les quantités, hein. On peut se faire livrer n'importe quoi, on peut se faire livrer 10 kilos même par la poste. En 4 mois, j'ai réussi à me faire à peu près 15 000 euros.
De bénéfices nets.
De bénéfices nets.
Gros consommateur de... Joe a commencé à utiliser le Darknet comme acheteur, il y a un an. Mais rapidement, ce chômeur a décidé de passer du côté des vendeurs.
Je ne vendrai pas sur l'Internet simple, par l'intermédiaire de Google ou n'importe quoi, parce que ils arrivent trop facilement à te retrouver. Sur Tor, tous les messages sont encryptés et je suis plus en sécurité à faire ça de chez moi anonymement et envoyé par la poste plutôt que d'aller vendre ça dans la rue et de faire venir n'importe qui chez moi. Je sais que je risque 10 ans d'emprisonnement, une amende, mais bon, ça me fait pas spécialement peur.
Malgré les risques encourus, le jeune dealer ne semble pas inquiet. En utilisant le Darknet, Joe est persuadé que la police ne peut pas le repérer.
Je viens de recevoir une commande. Commande d'un laser haze. C'est une herbe de hyper puissante, quoi. Enfin, faut-tu préparer ça, hein.
Joe accepte même de nous montrer comment il livre sa drogue à ses clients du Darknet.
Je viens de créer un petit sachet avec des fonds hermétiques pour emballer la marchandise sous vide pour éviter qu'il y ait des odeurs qui émanent du colis. Donc on essaie d'avoir quelque chose du plus fin possible, le plus plat, pour que ça passe le plus inaperçu possible. On le met dans la la machine. Et on met sous vide.
Cela semble surprenant, mais comme n'importe quel vendeur sur Internet, il envoie tout simplement ses colis par la poste.
Pourquoi des feuilles comme ça ?
Pour que quand on regarde la lumière, on voit pas directement ce qui est à l'intérieur de l'enveloppe. Il faut que ça ressemble à une lettre professionnelle, quoi. Et voilà, à la poste.
Chaque jour, Joe nous dit envoyer entre 5 et 10 enveloppes remplies de drogue. Ses clients et ceux des autres dealers du Darknet seraient plusieurs milliers en France.
Comme une lettre à la poste, ouais, c'est le cas de le dire.
Face à ce phénomène très alarmant, comment réagissent les autorités ? Nous sommes au centre de Tripostal de Chilly-Mazarin. Tous les colis expédiés en France transitent par cette plateforme. 90 000 paquets par semaine. Dans ce lieu stratégique, les douaniers font la chasse aux marchandises interdites.
Là, ce sont des cigarettes ?
Ce sont des cigarettes, là, ça s'ouvre.
Chaque jour, 40 kilos de cigarettes de contrebande sont saisies. Et les douaniers font parfois des découvertes plus surprenantes. Des colis, peut-être commandés sur le Darknet.
Au niveau stupéfiant, il nous arrive d'en faire. C'est moins fréquent, effectivement, que les contrefaçons et les cigarettes. On trouve de temps en temps de la résine de cannabis. Un jour, nous avons trouvé dans une malle une Kalachnikov en pièces détachées.
Nous sommes restés 3 semaines en alerte avec les douaniers et aucune saisie d'armes ou de stupéfiants n'a eu lieu. Mais d'après Arwan Guilmain, directeur régional des douanes, cela ne signifie pas que les précautions prises par les dealers du Darknet soient imparables.
On a toujours des molécules de stupéfiants qui vont imprégner le colis, qui vont imprégner son contenu. Donc même si les stupéfiants sont sous vide, il y a toutes les chances pour que le chien les repère néanmoins.
Mais ces contrôles ne peuvent être réalisés sur les milliers de colis qui transitent chaque jour dans ce hangar. Selon les douaniers, moins de 2% d'entre eux sont passés au rayon X. Voilà pourquoi la plupart des marchandises vendues sur le Darknet arriveraient bien à destination. En France, aucun réseau de trafiquants opérant sur le Darknet n'a encore été démantelé. Mais aux États-Unis, le FBI a réussi à fermer au début du mois d'octobre The Silk Road, le site numéro 1 de vente de drogue sur le Darknet. Plus $1 million par mois de chiffre d'affaires. Il a fallu plus de 2 ans et demi d'enquête et surtout une erreur de Ross Ulbricht, le chef de ce gang numérique, pour que le FBI arrive à ses fins.
Des milliers de dealers se servaient de ce site pour vendre de la drogue en cachant leur identité.
Un coup d'arrêt temporaire. Dès le lendemain, des milliers de consommateurs de drogue s'approvisionnaient sur d'autres sites du Darknet. Et surtout, un mois après sa fermeture par le FBI, le site a repris ses activités. Sur leur page d'accueil, les trafiquants se permettent même de narguer les autorités.
Bienvenue de nouveau dans le monde libre. Il est temps de nous ressaisir et de poursuivre cette révolution en luttant plus fort que jamais.
Pourquoi un tel sentiment d'impunité chez les trafiquants ? Il y a bien sûr le cryptage des adresses électroniques, mais pas uniquement. Tout ce commerce illégal est opaque, car sur le Darknet, c'est une monnaie intraçable qui est utilisée. Elle s'appelle le Bitcoin.
Le système de paiement sur les Darknet, ça ne peut pas être la carte bleue, ça ne peut pas être la Visa. Donc on va utiliser des monnaies Internet, des monnaies virtuelles, et en particulier les Bitcoins. Donc pour aller sur un marché anonyme, on a besoin d'une monnaie anonyme. Et le Bitcoin, c'est une monnaie qui permet d'être complètement anonyme.
Le Bitcoin est une monnaie légale qui s'achète sur des sites Internet spécialisés. Mais comment assure-t-elle l'anonymat bancaire à ses utilisateurs ? Prenons l'exemple du revolver 38 spécial que nous avons commandé sur le Darknet. Tout commence sur l'Internet légal. Des dizaines de sociétés proposent de convertir des euros en Bitcoin comme des bureaux de change. Nous en choisissons une et nous effectuons un virement bancaire de 1000 euros, le prix de l'arme. Lors de notre tournage, un Bitcoin valait une centaine d'euros. Nos 1000 euros sont donc changés en 10 bitcoins et déposés sur un compte électronique. Ce compte fonctionne comme un compte bancaire suisse. Une suite de chiffres et de lettres qui n'est pas reliée à notre identité. Nous agissons désormais dans l'anonymat total. Ainsi, après avoir acheté l'arme, notre relevé bancaire mentionne uniquement un débit de 1000 euros. Il n'y a aucune trace de la transaction illicite. Mais avant de dépenser leur bitcoin, quelles précautions les utilisateurs de cette cour des miracles numériques prennent-ils ? Un habitué du Darknet, que nous appellerons Raphaël, a accepté de nous rencontrer. Depuis 8 ans, Raphaël réalise régulièrement des achats sur l'Internet clandestin, des numéros de cartes bleues volées ou de la drogue, payés en bitcoin.
Ça me sécurise, c'est-à-dire que là, ça me permet d'être à distance et d'établir une sorte de barrière entre donc l'acheteur, moi, et le vendeur qui peut être quelqu'un du crime organisé.
D'ordinaire, Raphaël s'adresse toujours au même vendeur. Mais cette fois, il cherche une marchandise qu'il n'a jamais achetée.
Alors là, ce qui m'intéresse, c'est de voir si je peux trouver des faux billets qui sont corrects. Ça pourrait m'intéresser de me mettre au business, de faire mes propres faux billets et de les vendre surtout sur le Darknet.
Raphaël a repéré un premier vendeur.
L'important, c'est de regarder s'il y a bien des photos du produit. Donc là, vous voyez, il y a les photos des euros.
Une photo ne suffit pas. Pour s'assurer que le vendeur est sérieux, Raphaël vérifie s'il a bonne réputation sur le Darknet. Pour cela, comme sur n'importe quel site marchand, il consulte les avis de consommateurs.
Donc ce vendeur-là, par exemple, la qualité est bonne, l'envoi est rapide, 5 sur 5. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que lui, il propose pas uniquement d'envoyer des centaines de billets d'un coup, il propose d'envoyer un échantillon. Donc c'est le genre de choses qui peuvent m'intéresser.
Raphaël est convaincu. Même si la mise en circulation de fausses monnaies est passible de 5 années d'emprisonnement, il passe tout de même commande. Ses avis de consommateurs n'évaluent pas seulement les faux monnayeurs. D'après Cyril, notre spécialiste du Darknet, c'est même la clé de voûte de ces supermarchés du crime.
Les commentaires de ce vendeur, ils sont relativement récents. Super fast, well hidden and packed. Donc les vendeurs, a priori, cachent très très bien la drogue. Et donc du coup, elle arrive à destination rapidement et sans être attrapée par les postiers. Dans la mesure où on est dans un marché qui est complètement dans l'illégal, on va avoir aucun moyen de se retourner contre le vendeur et lui demander un remboursement. Donc vaut mieux que le vendeur soit fiable. Et donc la notation est importante sur ce type de contenu.
Vente de fausses monnaies, de drogue ou d'armes à feu, le Darknet est devenu l'Eldorado des trafiquants. Mais d'autres délinquants, d'un tout autre genre, ont aussi investi massivement le côté obscur du web. Une grosse partie des utilisateurs de cet Internet caché sont des consommateurs d'images pédopornographiques. Selon Cyril, depuis la création du Darknet, ces cyberpédophiles utilisent l'anonymat du réseau pour échanger et diffuser des contenus interdits.
Bon, là, on est vraiment dans les parties les plus sombres et les plus moches de Tor. C'est une des premières choses qui est apparue sur les darknets, c'est le contenu et la pédophilie. Depuis toujours, depuis tout temps, dès qu'il y a eu moyen de transmettre de façon anonyme ce genre d'images, il y a des gens qui sont allés les poser et des gens qui sont allés les chercher.
Sur le darknet, certains moteurs de recherche sont ouvertement pro-pédophiles et proposent des dizaines de liens vers des sites et des forums.
Sur la partie discussion, on peut voir en fait différentes personnes. On voit un endroit, une personne qui est en Amérique du Sud qui demande comment aborder une petite fille de 10 ans. Donc on peut voir qu'il y a l'air d'y avoir énormément de pages avec énormément de contenu. Il n'y a pas besoin de s'authentifier, il y a juste besoin de taper l'adresse et on tombe là-dessus.
Comment traquer des pédophiles sur un réseau anonyme ? Nous avons contacté plusieurs unités de police et de gendarmerie qui pourchassent ces délinquants sexuels. L'immense majorité a refusé de participer à notre reportage. Un seul service a accepté de nous laisser filmer son travail. Nous sommes au QG de la Brigade de protection des mineurs de Paris, la BPM.
On va aller chercher un monsieur qui a eu des relations sexuelles avec un mineur qui avait 14 ans à l'époque. Ils ont été mis en relation par Internet. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés.
Laurent, capitaine, fait partie du groupe Internet de la BPM depuis 13 ans. Il est spécialisé en cybercriminalité. Son rôle, identifier et appréhender les pédophiles qui sévissent sur le web.
Monsieur ?
C'est la brigade de protection des mineurs de Paris.
Oui. Vous avez une idée pourquoi on fait là ? Pas du tout ?
Vous n'avez jamais eu une relation sexuelle avec des mineurs ?
Non.
Non.
Ce matin, pour Laurent et ses collègues, l'affaire est tristement banale. Ce quinquagénaire aurait rémunéré un adolescent en échange de prestations sexuelles.
Vous savez, comme ça s'est passé sur Internet, on avait trace des échanges. Hein.
Oui, ça...
Donc les dates, on les a aussi. Il va falloir que vous essayiez de vous rafraîchir la mémoire, parce que ça va être compliqué.
Ce type de dossier, les policiers de la BPM en traitent plusieurs dizaines chaque année. Beaucoup plus rarement, le Darknet s'invite dans leurs enquêtes. Au siège de la brigade de protection des mineurs, cet homme en pull beige vient d'être placé en garde à vue.
Attendez, vous enfuyez pas, allez-y.
Dénoncé par un proche, les policiers ont besoin de preuves ou d'aveux pour le confondre. Ces disques durs ont été saisis. C'est Fabrice, le chef du groupe Internet, qui est chargé de les analyser. Mission difficile, car le suspect a utilisé Tor, le logiciel qui permet de se connecter anonymement au Darknet.
Alors, on n'a pas trouvé grand-chose en matière d'images pédopornographiques. Je pense que comme on l'a convoqué, il a fait le ménage sur son disque, mais il a oublié d'effacer son historique de l'un de ses navigateurs. Et là, il y a des choses intéressantes. Il utilise une passerelle Tor. Hein, donc, certes, c'est pas Tor qui nous a permis d'aller jusqu'à lui, mais il a commis une erreur. Et bon, tous ces gens-là, un jour ou l'autre, ils commettent une erreur. Et le tout, c'est d'être là au moment où ils commettent leur erreur.
Sans cette négligence du suspect, il aurait été impossible pour les policiers de casser les barrières de l'anonymat du réseau Tor et de déterminer qu'il a bien consulté des images pédopornographiques.
On va voir, hein. Déjà le titre pré-teen, c'est prépubère. Oui, bon, bah là, c'est clair. Hein. Elles ont, on va dire, 10-11 ans. Il y en a, c'est des poses, ce que nous, on qualifie de pédopornographiques sexuellement explicites. Donc après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah, ça promet.
Ce site n'a pas encore ouvert, mais il y a déjà un message spécial adressé aux policiers.
Alors, à tout membre des forces de l'ordre qui lira ça, je vous emmerde. Ouais, c'est clair. Bon, bah, ça me fait sourire. On verra bien qui rira le dernier.
Aucun doute, le suspect a bel et bien visionné des images pédopornographiques. Grâce aux éléments collectés par Fabrice, ses collègues vont maintenant tenter de faire parler le propriétaire des disques durs.
Ça vous dit quelque chose, tout ça, oui. Je suppose oui. On a trouvé... sexe.
Oui.
Oui. Index. Comment vous avez été amené à télécharger des images pédopornographiques ?
En fait, j'ai découvert par hasard sur Internet l'existence du Darknet. J'ai découvert ça il y a peu de temps, moins d'un an. Mmh.
Est-ce que vous avez décidé d'installer Tor pour aller uniquement sur les sites pédopornographiques ?
Oui.
Laurent a obtenu ce qu'il voulait. L'homme vient de reconnaître que les infractions durent depuis plusieurs mois, mais il tente de se justifier.
J'y allais quand je regardais tellement de porno classique, si vous voulez, qu'il y avait une lassitude qui s'était installée. Du coup, c'était pour rechercher des nouvelles images.
Et... Vous cherchiez à travers les images pédopornographiques une autre forme d'excitation ?
Oui. J'avoue que l'inceste, c'était juste les images que je recherchais.
Après son audition, cet homme de 40 ans a accepté de nous expliquer pourquoi il a eu recours au Darknet.
Quand on va sur le Darknet, vraiment, la pédophilie, c'est ce qui nous saute aux yeux. Il y a ce côté anonyme qui fait qu'on n'a on a pas peur de ce qu'on fait. Et que du coup, on se sent libre de regarder ces images.
Cette fois, Laurent a obtenu des aveux. Mais quand les cyberpédophiles utilisent le Darknet, il est très difficile pour la police de les arrêter.
C'est quelque chose sur laquelle on tombe par hasard. parce que malheureusement, le système est bien pensé pour empêcher d'identifier. On a d'autres cas. J'ai actuellement un dossier où la personne est passée par tort pour se connecter sur Internet. Et c'est vrai que là, on se trouve face à un mur. Il est, pour l'instant, j'arrive pas à l'identifier. Je suis coincé.
Impossible pour les policiers de fermer les sites consultés par cet homme sur le Darknet. Il sera jugé dans quelques semaines et risque jusqu'à 7 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Pédophilie, trafic de drogue ou d'armes, on pourrait croire que l'anonymat sur ce réseau clandestin ne peut servir que le crime organisé. Pourtant, à la base du Darknet, il y a un tout autre projet. Lancé par l'armée américaine il y a un peu plus de 10 ans, cet Internet parallèle a été construit comme un refuge pour ceux qui cherchent à échapper aux dictatures. Objectif atteint lors des révolutions du printemps arabe et du soulèvement en Syrie. Les rebelles ont utilisé le Darknet pour communiquer entre eux et échapper à la censure. À Paris, nous avons rencontré un activiste qui s'est servi de sa connaissance de l'Internet caché pour participer à ces cybercombats. Hawkin est un hacker militant, un expert en informatique, toujours prêt à partager sa maîtrise du Darknet.
Bienvenue à cette deuxième crypto-partie organisée par des gens du Loup.
L'objectif de cette formation, c'est de donner des clés pour apprendre à maîtriser Tor, la porte d'entrée du Darknet.
Tor, c'est une bonne solution pour ce genre de cas.
Mais l'action d'Hawkin est loin de se limiter à ses crypto-parties. Sa spécialité, organiser des opérations coup de poing avec les Télécomics, un groupe d'activistes prodiges en informatique. Leur principal fait d'armes, le piratage de l'Internet syrien, il y a 2 ans.
Cette page, c'est ce qu'on a mis en place quand on a détourné une partie de l'Internet syrien. Donc tous les Syriens, quand ils se connectaient sur Internet, ils arrivaient sur cette page-là. Et c'est un avertissement pour leur dire que toute leur activité sur Internet est surveillée, avec des liens vers des outils, vers des moyens de contourner ça, des moyens de nous contacter, etc., etc.
Cette page expliquait les rudiments du Darknet pour contourner la cyber-répression du régime de Bachar el-Assad. Hawkin lutte contre la censure des régimes totalitaires, mais le militant se méfie aussi des pays démocratiques. L'actualité lui donne parfois raison. Il y a quelques mois, le scandale Prism éclatait avec les révélations fracassantes d'Edward Snowden. Le gouvernement américain reconnaissait une surveillance presque industrielle de l'Internet mondial. Selon Hawkin, le Darknet constitue le dernier espace de liberté absolue.
Quand t'es en Chine, tu veux accéder à des informations sur la place Tiananmen, s'il n'y a pas à tort, tu verras jamais la photo du jeune étudiant face au tank. Jamais. Il n'y a aucune chance que tu tombes dessus. Donc t'as aucune chance de te construire une conscience politique indépendante. Donc moi j'aimerais bien vivre dans un pays où j'ai pas besoin d'utiliser Tor pour être sûr d'accéder librement à toute forme d'information. Alors avec les scandales de Prism, avec tout ce genre de trucs-là, je ne peux pas faire confiance ni au gouvernement ni aux entreprises privées pour me garantir cette liberté d'accès à l'information. Ils violent délibérément les droits de l'homme. Donc, pour ça, moi je défends mes droits de l'homme, je défends mes droits, je défends mes libertés et donc j'utilise Tor.
Hawkin est loin d'être le seul à vanter les bienfaits de cet Internet anonyme. C'est même devenu l'un des fers de lance de Reporters sans frontières, une organisation non gouvernementale qui défend la liberté d'expression des journalistes dans le monde entier. Dans les zones les plus à risque, l'ONG fournit aux journalistes casques lourds et gilets pare-balles. Depuis peu, des clés USB font aussi partie de la panoplie du reporter de guerre.
On installe quelques logiciels qui vont permettre de chiffrer les emails, de chiffrer les chats et de chiffrer les disques durs. Notamment dessus, par exemple, il y a Tor.
Grégoire est responsable des nouvelles technologies à RSF. Avec ses clés USB, il part demain en mission spéciale à Kaboul. Il est envoyé par Christophe Deloire, le secrétaire général de l'ONG.
Là, l'équipe qui part en Afghanistan va travailler pour sensibiliser les journalistes locaux à la question de la sécurité numérique. Parce que la sécurité numérique, aujourd'hui, c'est un élément même de la sécurité physique. Il n'y a pas de protection des journalistes dans des zones sensibles, il n'y a pas non plus de protection de leurs sources. sans sécurité digitale.
Depuis plusieurs mois, la situation est très tendue en Afghanistan. Les élections présidentielles sont prévues en avril 2014 et dans quelques mois, les troupes de la coalition internationale vont se retirer du pays.
C'est un peu surprenant quand on arrive, tu vois, les miradors, les barbelés, les hummers, oui, tout ça. Bon, c'est normal.
C'est la zone de guerre, vous savez.
Voilà.
À Kaboul, les militaires sont partout et les checkpoints à chaque coin de rue. Principal risque, les attentats suicides commis par les talibans, mais aussi les kidnappings. Les reporters afghans sont des cibles privilégiées. Plusieurs ont été assassinés. Depuis le début de l'année, RSF a également relevé une trentaine d'agressions violentes sur des journalistes en Afghanistan. Parviz Kaveh est le patron du titre 8h du matin, l'un des rares journaux indépendants du pays. Pour éviter la censure, il préfère éditer lui-même son journal sur ses vieilles rotatives. Les intimidations font partie du quotidien de ces journalistes.
La plupart des menaces, ce sont des coups de téléphone. On dit aux journalistes qu'ils vont être tués s'ils continuent à travailler pour moi. Un jour, la police afghane m'a conseillé de changer chaque fois de route pour venir ici et rentrer chez moi.
Des menaces proférées suite à plusieurs révélations, accusant certains hommes politiques locaux de corruption. Alors que le web afghan est très surveillé par les autorités et les talibans, les journalistes de 8h du matin font transiter certains documents sensibles sur Internet, sans aucune précaution. C'est pour mettre fin à cette situation que Grégoire organise sa formation à Kaboul. Les cours ont lieu dans son hôtel, un petit bunker sous bonne garde. L'établissement héberge surtout des diplomates et des journalistes, souvent ciblés par les talibans.
Attention, système D.
Sept journalistes sont présents aujourd'hui. Le moment est enfin venu pour Grégoire de se séparer de ses précieuses clés USB qui contiennent Tor, la porte d'entrée du Darknet.
I would like just to explain how Tor is working. Once the connection is established, it will launch a new browser window and you will have to use this to be sure to be anonymous.
En plus des journalistes afghans, trois reporters tadjiks ont fait le déplacement. Leur problématique est différente. Ce n'est pas uniquement l'anonymat sur Internet qui les intéresse.
Ce site est bloqué au Tadjikistan.
Well, if you use Tor in Tajikistan, you will be able to access. So it's very useful if you want to bypass censorship.
Le Darknet est en passe de devenir un outil capital pour la liberté d'expression. C'est avant tout cela que Grégoire veut retenir, plus que les trafiquants ou les escrocs qui sévissent sur ce web clandestin.
Tout ce qu'on dit du Darknet, peu importe, quoi. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais moi c'est un outil, c'est comme un couteau, on coupe des oignons, on tue des gens, nous on coupe des oignons, voilà.
RSF a mis en ligne un kit de survie numérique qui propose Tor aux journalistes du monde entier. Ce qui n'est pas du goût des autorités, même dans certaines démocraties occidentales. Car ce réseau échappe à la surveillance de leurs services de renseignement. Parmi les multiples informations confidentielles révélées par Edward Snowden, ancien informaticien de la CIA, de nouvelles notes secrètes concernent le réseau Tor. La NSA, la plus puissante des agences du renseignement américain, tenterait depuis plusieurs années de mettre le Darknet sous contrôle. Sans succès jusqu'à présent.